Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant Jésus-Christ en vous par le Saint-Esprit. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et le thème pour aujourd'hui sera « Des ténèbres jaillit la lumière ». Chers amis, dans l'enveloppe du grain, dans cette enveloppe contient le germe. C'est la promesse, ainsi que nous l'avons vu dans notre précédent entretien, reportée sur le plan humain. Il s'agit de divines réalisations. Voyez-vous, l'homme extérieur, en effet, porte en lui, à l'état virtuel, un homme intérieur ou spirituel, et cela aux possibilités illimitées de développement et d'expression. À ce propos, il importe de se souvenir que si l'homme intérieur et spirituel est toujours parfait, son enveloppe, l'homme extérieur, lui, se débat dans les contradictions et les imperfections de toutes sortes, parce que il hérite d'innombrables siècles d'ignorance où les sens ont vraiment régné en maître. Comprenez bien ceci. Une fois pour toutes, l'esprit est le souverain légitime. Le Seigneur est le roi véritable. L'homme s'est efforcé de modifier ses conditions d'existence et en ne se préoccupant guère que de réalisations matérielles et de secours pouvant lui venir du dehors. Le vrai progrès en a été retardé, souvent même empêché. Au contraire, chaque fois que les forces spirituelles ont pu agir pour amener des réalisations matérielles, il en est résulté quelque chose de durable et même d'éternel. Un corps non maîtrisé par l'esprit ne porte en lui qu'une vie incapable encore de se réaliser. Or, tout doit un jour aboutir pleinement. Il, Dieu, achèvera ce qu'il a commencé. Notez s'il vous plaît le psaume 138, verset 8, et Philippiens chapitre 1, verset 6. Je vous ai déjà dit que, si c'est possible, notez les indications bibliques que je vous donne, ceci pour que vous puissiez vérifier et comprendre que jamais j'essayerai de vous enseigner quelque chose de mes propres idées. Ce serait quelque chose de défendu et j'aurais des comptes à rendre. Continuons. Donc, à mesure que vous progressez, vous qui écoutez, dans la connaissance des réalités spirituelles, vous avez du Christ une vision plus claire, et c'est par une vision nette de ce qu'il faut réaliser que tout commence. Il nous faut commencer par nous voir tel que nous devrions être pour pouvoir le devenir ensuite. Maintenez en vous l'idéal le plus haut. Trouvez-le dans le Christ lui-même et vous finirez par lui devenir semblable, Notez Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Peut-être vous demanderez-vous à ce propos comment nous expliquons le développement physique souvent parfait des races primitives ou sauvages. Voici, vous avez évolué à cause de votre ignorance, vous ne l'avez pas fait d'une façon parfaitement équilibrée. Pourtant, les progrès que vous avez réalisés spirituellement et intellectuellement ont beaucoup plus d'importance que ce que vous avez pu perdre en vigueur physique. Le primitif, au reste, s'éveillera à son tour, soyez-en certains, et lui aussi apprendra à dire un jour « Je suis ». Donc, il finira par céder à la volonté d'être qui se fera jour en lui. Et en effet, sans doute, aura-t-il à souffrir, parce que rien n'arrive sans travail assidu et discipline. Donc, il aura peut-être à souffrir pour y arriver. Car on acquiert la véritable connaissance que en souffrant. Mais il finira par se savoir, et se vouloir à devenir enfant de Dieu. Il aura à se frayer un chemin vers le réel, à travers ses apparences passagères, tout comme vous avez dû le faire vous-même. Et avec nous, vous l'entourez de votre sollicitude et de votre prière. Et cela jusqu'à ce que tous les royaumes de la terre se soient ralliés au royaume des cieux. Car les païens aussi font partie de l'héritage que Dieu réserve à son Christ. Il y a des peuples dans des endroits très primitifs qui ont un sens très profond pour la vérité, pour la loyauté, la fidélité et de l'honnêteté. Que de nombreux peuples, soi-disant à la pointe de la civilisation, ont souvent rejeté. Par votre résistance à la volonté divine, vous vous attirez, hélas, une somme immense de souffrances inutiles. Mais il est une qualité de souffrance qui mène sur les sommets. C'est celle qui libère en vous les trois grands principes de toute croissance spirituelle, la foi, l'espérance, l'amour agapé, la compassion et la charité. C'est en se heurtant à l'obstacle pour le surmonter que le bien prend conscience de lui-même et se réalise au maximum, en sorte que tout peut servir à votre bien. Notez Romains chapitre 8, verset 28. N'oubliez pas que ce sont les ténèbres de la nuit qui nous font goûter pleinement toutes les splendeurs de l'aube. Chers amis, le cœur, âme et esprit est l'organe de la connaissance spirituelle. Disons plutôt qu'il est le portique de la sagesse divine. Heureux donc ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notez s'il vous plaît, Saint Matthieu chapitre 5 verset 8. C'est par le cœur, âme et esprit, et non par l'intelligence, que nous sondons les profondeurs de Dieu. notez le Proverbe chapitre 2, verset 2, chapitre 10. Donc, je répète, Proverbe 2, verset 2, ainsi que le verset 10. Ensuite, ajoutez le chapitre 4, verset 23, et le chapitre 22, verset 17, toujours dans les Proverbes. L'enseignement qui vous est donné ici doit être reçu avant tout par le cœur, âme et esprit pour être compris et assimilé. Il en est ainsi parce que toute vraie connaissance spirituelle procède du cœur divin de l'amour. Comprenez donc combien Dieu vous est intime. On a échafaudé toutes sortes de théories relevant de l'intelligence humaine pour essayer de comprendre la croix. En pareille matière, il faut s'en remettre aux intuitions intérieures et spirituelles, et non seulement aux données de la raison humaine. Ici, nous savons que le sacrifice de la croix a pour notre monde terrestre une valeur inépuisable. Par cet acte sublime, Jésus le Christ a traduit la pensée la plus haute de Dieu pour vous. Vous ne pouvez, pour le moment, en mesurer toute la portée. Notez Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Les chaînes furent brisées et votre terre fut libérée. Oui, combien peu on a vraiment compris. Il y en a très peu qui ont compris la croix et la raison de la croix. Devant un tel mystère, la seule attitude qui convienne est celle de l'adoration et du silence. Sa signification est immense. Seule la sagesse d'en haut peut en sonder la profondeur et la plénitude d'amour. Les principautés et les puissances, notez Éphésiens chapitre 6, verset 12, ne peuvent plus rien contre vous pour peu que vous leur refusez résolument votre assentiment. Je répète cela, parce que c'est important. Les principautés et les puissances ne peuvent plus rien contre vous, pour peu que vous leur refusez résolument votre assentiment. Par la croix, l'humanité accède au divin. Chaque détail de la crucifixion recèle quelques importantes vérités intérieures. Quant à vous, chers amis, vous avez beaucoup à apprendre encore à ce sujet. La pleine valeur du sacrifice, en effet, vous échappera aussi longtemps que vous n'aurez pas accédé à l'état christique, où l'homme est affranchi du péché et de lui-même. Jésus-Christ vous apporte de Dieu la plus haute conception à laquelle vous puissiez parvenir. Dès le commencement du monde, il accepta de manifester le Christ éternel de Dieu dans notre humanité. Il fut le seul à être pleinement conscient des intentions de Dieu à notre égard. Au jour de sa chair, il fut l'homme-Dieu. Il fut homme pour tous les hommes. il fut celui qui vraiment aima Dieu et aima les hommes. L'homme universel, en lui, tous les hommes sont frères. En effet, en Jésus-Christ, et je le répète, tous les hommes, et j'ajoute les femmes, évidemment, vous l'avez compris, sont frères et sœurs. Il manifeste ici-bas la plénitude de la vie cosmique. Il est la sève, il est le tronc et il est le cep. Notez Saint Jean, chapitre 15, verset 1. Il fut véritablement fils de Dieu et fils de l'homme. Avec force, la croix montre que l'homme et Dieu sont devenus un. Ils sont donc unis. Chers amis, nous devons devenir ancrés dans la vérité. Quiconque veut bénéficier de cet enseignement doit faire abstraction de l'attitude hostile des autres. Il est infiniment préjudiciable, voire dangereux, à votre équilibre, pour votre équilibre intérieur, de vous laisser envahir par les courants de pensée ou de sentiments contradictoires qui, on peut dire, qui s'affrontent autour de vous de nos jours. Cela mène à l'épuisement et brise les ressorts intimes de tout notre être. Quand vous vous mettez à l'écoute, en état de réceptivité, maintenez-vous parfaitement calme et ne permettez à rien de venir troubler votre conscience profonde. Notez Ésaïe, chapitre 26, verset 3 et le verset 30, et ajoutez, non, je répète, Ésaïe, chapitre 26, verset 3, et le chapitre 30, verset 15, ensuite ajoutez Saint Luc, chapitre 10, versets 41 et 42. Il est important que je ne me trompe pas avec les indications bibliques parce que ça discréditerait tout ce que je peux vous dire. Et je fais donc attention à cela et je dois donc absolument me concentrer. Chers amis, quand il s'agit des autres, amenez-les à prendre conscience de leurs propres ressources spirituelles et ne vous imaginez pas qu'il soit bon pour eux de subir votre pensée personnelle. Voyez-vous, la meilleure façon de les aider, c'est de les conduire à l'unique source de tout bien, c'est-à-dire vers le Dieu omniprésent et sa sainte parole, et cela afin qu'il s'y désaltère directement. Chers amis, Jésus, l'instructeur divin, veut vous amener à tout comprendre. Il réalisa l'unité effective avec Dieu en se rendant totalement solidaire de l'homme, et c'est en devenant pour tout homme, et j'ajoute, vous l'avez compris, femme, pour arriver à être un ami personnel et un frère. Notez s'il vous plaît Saint Marc chapitre 3, verset 35, et Saint Jean chapitre 11, verset 3, et le verset 36. Vous êtes donc appelés, vous aussi, à devenir un avec tous les hommes et à réaliser ainsi l'universelle fraternité. Notez Saint Matthieu, chapitre 23, verset 8, et Saint Jean, chapitre 13, verset 34. Oui, l'unité est en Dieu. Notez Saint Jean, chapitre 17, verset 20 à 23. La vérité, die Wahrheit, finira infailliblement par se donner une expression verbale adéquate. Déjà, ce nouvel état de conscience pointe à l'horizon. Lentement, mais sûrement, nous voyons se constituer en Dieu l'unité de tous ceux qui croient. En accédant ainsi à l'universel, vous ne serez en aucune façon appauvri ou amoindri dans votre personnalité, mais bien au contraire, vous serez amené à plus d'amour et à plus de véritable compréhension. La souffrance de quelques-uns affecte toute la communauté. La Sainte Bible dit qu'ils sont beaux les pieds des messagers, les messagers de paix et de bonne volonté à l'égard de tous. Notez s'il vous plaît Ésaïe 52 verset 7. Le prince de la paix, Ésaïe chapitre 9 verset 5, le prince de la paix besoigne en silence au cœur des nations. Notre prière, c'est que les portes s'ouvrent afin qu'un grand flot de vie puisse couler librement et se répandre tel le fleuve de feu issu de l'Ancien des Jours. Notez Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Partout où il coule, il apporte la guérison. Demeurez donc calme dans l'espérance. Soyez ferme et soyez courageux. Josué chapitre 1, verset 7. La nuit avance et le jour approche. Notez Romains, chapitre 13, verset 12. Je redis toute la phrase pour qu'elle soit bien comprise. Voyez-vous, partout où il coule, il apporte la guérison. Où il coule, vous voulez demander quoi ? Eh bien, le fleuve de la vie. Oui, là, c'est vraiment l'espérance. Soyez donc ferme et courageux, car la nuit s'avance et le jour approche. Donc, Dieu demeure présent, vraiment, même dans l'enfer le plus noir. Il existe au-dessous de votre niveau humain, il existe des sphères où l'on est parfois totalement inconscient de la présence divine. Chaque fois que vous remportez une victoire dans le monde matériel, vous améliorez les conditions d'existence de tous ceux dont le niveau est inférieur au vôtre. Je le répète, chaque conquête individuelle est une victoire pour la race tout entière. Priez donc souvent et aimez beaucoup. Prenez garde de ne pas trébucher sur le chemin qui monte, car quand vous tombez, vous en entraînez d'autres dans votre chute. Remerciez donc Dieu des occasions glorieuses de progresser que vous apporte chaque minute de votre vie terrestre. Et puis, réaliser sans cesse le fameux sermon sur la montagne, noter Saint Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et le chapitre 7. Je répète, relisez sans cesse le sermon sur la montagne en observant le silence intérieur de façon à ce que les mots vous livrent leur sens véritable. Chers amis, ce que vous allez entendre est surtout pour ceux qui ont 30 ans de moins que moi qui en a 90. Voyez-vous, le corps et l'enveloppe et le vêtement de l'esprit. Et déjà, vous comprenez que l'esprit doit parler en maître. Au début, vous ne verrez peut-être pas de résultat, mais le redressement s'amorce dès que vous donnez la priorité à l'esprit. Ne vous laissez donc pas décourager, comme ce fut le cas pour moi, si vous n'obtenez pas sur le champ des résultats visibles. Aujourd'hui, je me rends compte que le processus de guérison avait commencé alors même que tout semblait absolument perdu. Si vous étiez parvenu à la vraie connaissance, vous verriez dans l'aggravation qui souvent est apparente de notre état physique et sans compter les circonstances extérieures. Si vous voyez une situation qui est branlante, prenez courage et ayez confiance, car l'Esprit Saint, Jésus-Christ, il prend la situation en main pour vous. Voyez-vous, un jour d'ailleurs, vous remercierez Dieu, vous le remercierez d'avoir dû affronter toutes ces ténèbres et toutes ces luttes, et vous reconnaîtrez qu'en réalité, cela vous a été en bénédiction. Par vous, le Christ veut libérer les âmes qui sont captives. Par vous, il veut ouvrir aux prisonniers la porte de leur prison. Notez Saint Luc, chapitre 4, versets 18 à 21, et Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Donc, votre corps sera l'habit splendide de l'esprit, car c'est l'être tout entier qui doit être sauvé, corps, âme et esprit. Qu'est-ce que la pensée, demandez-vous? Eh bien, sans doute, n'êtes-vous pas encore parvenu à la saisir dans sa réalité profonde? Eh bien, voici. Voyez-vous, la pensée est une émanation de l'être et n'est donc pas un processus uniquement mental. Au cœur même de la vie, qu'il s'agisse de vie universelle ou de vie individualisée, jaillit une source à partir de laquelle tout évolue. C'est la cause première inhérente à sa propre création. Elle existe en soi et est inséparable d'elle-même. Elle tend irrésistiblement à la perfection et à la paix. Dieu pourtant a voulu que tout émane du grand foyer central de la vie. C'est une loi qui trouve son application jusque dans les manifestations les plus élémentaires de la vie. La terre recèle en son sein du feu et de l'eau, ainsi que des minéraux en quantité incalculable, mais elle est surtout animée d'une grande force spirituelle, intérieure et invisible, qui crée et qui recrée sans cesse. Cette force, c'est la pensée. C'est l'émanation de la vie en soi. C'est l'émanation de la vie en soi dans son unicité. Elle anime donc la prière, le roc de la matière la plus dense. Et elle nous anime totalement, corps, âme et esprit. Voyez-vous, l'homme se fait surtout souvent du mal. Il se fait du mal par ses habitudes mentales. Il empêche ainsi la pensée divine d'émerger en lui. L'homme entrevoit un aspect de la vérité et immédiatement il le limite, lui donne une forme précise, l'enserre dans les catégories de sa raison et s'engage ainsi dans une impasse en isolant cet aspect de la vérité de son ensemble. Il n'y a pas de vérité partielle ou, si vous voulez, fragmentée. La vérité est une. Chacun, chaque homme et femme, ne peut embrasser toute la vérité. C'est une entreprise, on peut dire, d'éternité. Même à un âge très avancé, je continue d'apprendre. Il importe qu'à l'heure actuelle, vous cultiviez vos facultés réceptives en libérant votre esprit des étroitesses et des croyances qui vous lient, afin de redevenir comme de petits enfants. Sinon, vous ne pourrez entrer dans le royaume. Notez Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. Chers amis, si vous saviez quelle somme de force spirituelle nous voyons emprisonnée derrière les portes que la raison de l'homme, limitée par les sens, a, hélas, fermée. Mais l'Esprit de Dieu, cet Esprit vivifie l'intelligence en sorte qu'elle reçoit la véritable lumière. Notez Saint Jean, chapitre 1, verset 9, et le chapitre 8, verset 12. Avant de terminer, je voudrais vous dire, ouvrez-vous, mes chers amis à l'écoute, à cette secrète vie de l'esprit, comme s'ouvre ainsi la fleur. Vous avez déjà vu une fleur s'ouvrir lentement aux forces qui sont cachées, qui la nourrissent et qui la font éclore. Oui, contemplez attentivement les fleurs des champs et vous verrez qu'elles éclosent sans labeur pénible ni lutte. Notez Saint Matthieu, chapitre 6, verset 28. Voyez-vous, tout cela vous aidera à trouver le calme et la stabilité. Et il en résultera à la longue. C'est pas en claquant des doigts. Il en résultera à la longue une grande paix pour vous et pour votre entourage. Et souvenez-vous que c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Notez Philippiens chapitre 2, verset 13. Chers amis, avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour vous encourager et en même temps, en quelque sorte, un enseignement. Écoutez, cherchez et vous trouverez. Vous trouverez cette connaissance intérieure et spirituelle qui éclaire et résout les problèmes de l'existence. Les difficultés de la vie proviennent d'un manque d'harmonie chez l'individu. Dans le royaume de Dieu, la discorde est impossible. Elle révèle toujours chez ses disciples un recoin de leur vie qui s'est dérobé à sa souveraineté. Dans le royaume de Dieu, tout est ordre parfait, harmonie parfaite, approvisionnement parfait, amour parfait, honnêteté parfaite, obéissance parfaite, et par conséquent, toute puissance, victoire assurée et succès certain. Mais si souvent, les serviteurs de Dieu ne connaissent pas la puissance, la victoire, le succès, la plénitude, l'harmonie, et alors ils s'imaginent que c'est Dieu qui ne tient pas ses promesses. Ces choses ne sont que la manifestation toute naturelle et nécessaire de l'obéissance, de l'honnêteté, de l'ordre et de l'amour accepté dans leur exigence quotidienne. Elles ne sont pas données en exaucement à la prière, mais elles émanent de l'être, comme la lumière émane de la bougie qui est allumée. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Prions. Ô notre Dieu et notre Père, tu nous as permis de nous adresser à toi dans toutes nos peines, dans toutes nos inquiétudes, comme dans toutes nos joies et nos prospérités. Lorsque tu répands sur nous tes bienfaits, nous devons te bénir et te rendre grâce. Lorsque tu nous visites par des épreuves, nous devons te bénir encore de cette bonté paternelle qui console et qui fortifie. Seigneur, nous venons maintenant te remercier du fond de nos cœurs pour toutes les bénédictions dont tu nous combles et dont tu nous as comblés, pour les grâces que tu nous accordes en nous éclairant de la lumière de ton évangile, et nous venons en même temps implorer avec insistance et ferveur ta protection et ta miséricorde. Dans toutes circonstances, fais-nous sentir ton assistance et ton appui, que ton Saint-Esprit dépose dans nos cœurs des germes de confiance et de foi qui nous fassent tout envisager, tout entendre, tout accepter avec la joie d'enfants qui sont soumis à leur Père et confiants en ta tendresse et en ta bonté. Travaillons tandis qu'il fait jour, que salutairement frappés par un rayon de ta grâce, nos âmes puissent s'écrier « Que ferons-nous pour être sauvés ?» Qu'elle écoute simplement ta réponse « Oui, mon Dieu » et qu'elle vienne avec humilité, avec une foi sincère, oui, vers le Sauveur qui les a réconciliés avec toi, vers celui qui peut seul nous fortifier et dans la vie et dans la mort. Que cette journée se passe dans le sentiment de ta paix, protège-nous, donne-nous un esprit de douceur, d'obéissance à tous tes commandements. Exauce-nous, ô oui Seigneur, au nom et pour l'amour de ton Fils bien-aimé. Amen. Et merci encore pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études, à tous ces choses que vous entendez qui ne sont pas toujours tout simples à écouter. Eh bien, je prie pour vous, prions, c'est notre devoir, les uns pour les autres. J'ai dit que c'est notre devoir. Et rappelez-vous que si le Seigneur vous aime, c'est mon devoir de vous aimer intensément. Ou si je vous embrasse tous avec tout mon amour et je vous souhaite une bonne nuit et demain matin, Dieu voulant, je continuerai cette série. Au revoir. Et à bientôt, soyez bénis.